L'espace éthique de l'APHP a été créé en 1995. Son originalité, c'est que ce n'est pas un comité d'éthique. Il est au service de l'éthique hospitalière et du soin, donc d'une institution qui est un hôpital public, qui a une place dans la démocratie, qui défend un certain nombre de valeurs et de principes. Et donc les fondamentaux de l'espace éthique de l'APHP, c'est d'abord un travail en réseau avec des professionnels. Il n'y a pas une légitimité d'un espace éthique, c'est un lieu ressource, un lieu service. Nous n'avons jamais rendu le moindre avis. On anime des réseaux, qui sont des réseaux au plus près de la réalité du terrain. On ne se substitue pas aux professionnels, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc vous avez des sociétés savantes, vous avez des comités d'éthique, vous avez un centre d'éthique clinique, vous avez toute une diversité d'approches. Nous, on n'est qu'une composante. Et en 2004, le législateur, dans la loi relative à la bioéthique, a consacré le modèle espace éthique, qui est devenu régional. Donc depuis quelques jours, l'espace éthique de l'APHP est devenu l'espace éthique Île-de-France, avec une ouverture également sur le secteur social, pas uniquement sanitaire. Et encore une fois, ce n'est pas un lieu de décision, c'est un lieu d'observation, un lieu ressource et un lieu de formation. Donc le lieu a une imitation extrêmement précise de ses champs de compétences. Et l'intérêt, rétrospectivement, depuis 1995, c'est de constater que jamais l'APHP n'a autant diversifié ses approches en matière d'éthique. Alors c'était lié aussi à des conjonctures, le fait qu'il y ait la réflexion de sociétés savantes sur les décisions médicales, néonatologie, réanimation, qu'il y ait des débats autour de la fin de vie, qu'il y ait des avancées biomédicales, la greffe de visage, des avancées techniques importantes qui interrogent en matière de neurosciences, font tous ces éléments bout à bout que la réflexion éthique est au cœur des débats de société. Les états généraux de la bioéthique, nous y avons été associés. Mais encore une fois, comme lieu, non pas de décision, pas d'avis ou des rapports, mais comme lieu de participation, de contribution à un débat, en le rendant possible, ce qu'on commence à faire aujourd'hui avec la mission présidentielle au CITIAR sur la fin de vie. Il est dit que de maintenant jusqu'à éventuellement le projet de loi que présentera François Hollande, il faut annuler le débat. On annule un débat, le prochain débat c'est dans quelques jours à Becker, on le fait avec le SAMU, avec la CME, c'est-à-dire nous ne sommes pas un lieu, j'allais dire, autonome dans l'institution. On est un lieu qui peut être catalyseur, qui peut être service. Alors, toute la journée, les gens nous posent des questions, est-ce qu'on doit faire ceci ou cela? On répond que c'est pas de vous le dire, mais on peut vous mettre en contact avec, on peut vous fournir de la littérature. Si vous voulez, dans votre service, avoir une personne plus compétente en matière éthique, elle peut faire un DU, un master ou un doctorat. Donc oui, on est vraiment un lieu service. Une spécificité également de l'espace éthique de l'APHP, comme ça a été le promoteur d'un modèle, il a une dimension par nature nationale. Sur les 450 personnes qui ont fait un master M1 chez nous depuis 2006, 55% venaient de province. Donc on a aussi irrigué avec cette vocation de dire les questions éthiques, elles doivent être posées par les professionnels et pas par des éthiciens. Et donc ça, c'est aussi un fondamental chez nous. Et de se dire, moi je ne suis pas professionnel de santé, j'ai une formation de philosophe. Mais j'ai reconnu dès le départ qu'il y a des compétences et qu'elles sont multiples. L'espace éthique, en 2013, est un lieu où vous retrouvez des membres d'associations. On a des personnalités extrêmement fortes qui ont constitué des groupes de travail et qui ont donné une pertinence et une légitimité à leur travail. C'est de retrouver des soignants qui sont partout dans la chaîne du soin. Ça va, j'allais dire, du jardinier de l'hôpital jusqu'à la personne qui accueille le téléphone ou au chef de service. Donc c'est des lieux également de démocratie sanitaire. Et c'est pas anodin de le dire, c'est qu'on est un lieu d'anticipation. Jamais de critique. Nous n'avons pas à critiquer, à lancer sur la voie publique des débats qui concernent l'intimité de l'APHP. Il y a d'autres instances de régulation. Donc, on a une certaine forme de discrétion, ce qui ne nous impose pas d'avoir une opinion sur tel et tel sujet d'actualité par rapport aux pratiques professionnelles. On ne se mêle jamais de ce qui ne nous regarde pas. On a à intervenir avec discrétion, éventuellement rencontrer les uns les autres, aller à des staffs pour poser un certain nombre de questions ou apporter d'un point de vue éthique une argumentation. Voilà. Donc le champ est très délimité et je dirais que, et c'est le dernier point, plus on institutionnalise, et c'est le grand risque, les questions d'éthique dans un contexte de judiciarisation des pratiques, plus il nous faut être prudent. Beaucoup des questions qu'on pose à l'espace éthique sont dirigées pour moi vers le service juridique de l'APHP, à Marc Dupont. Ce n'est pas des questions éthiques, c'est des questions juridiques. Beaucoup de questions relèvent aux bonnes pratiques. On a la HAS, on a les sociétés savantes, etc. Donc le rôle, c'est de dire, mais vous avez telle recommandation, telle conférence de consensus, tel document, tel élément dans la littérature qui peut vous éclairer. Beaucoup de questions, c'est des questions de décision médicale ou médico-soignante qui renvoient à des expertises que nous n'avons pas. C'est de dire, mais vous avez telle équipe qui a travaillé l'arrêt et l'administration de traitement pour une personne, par exemple, atteinte de maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que depuis 2010, on nous a confié une mission nationale, puisqu'on est devenu l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Et on n'avait jamais, en matière de plan de santé publique, identifié la création d'une structure dédiée à l'éthique, et notamment à tout ce qui est mobilisation d'une société par rapport à une maladie. Donc on a développé un modèle qui apparemment a marché, puisqu'il a été évalué selon des critères scientifiques identiques aux autres mesures du plan Alzheimer. On a évalué selon un certain nombre d'indicateurs l'espace éthique. C'est plutôt une grande réussite, puisque tous les critères qui nous avaient été présentés, tous les indicateurs, ont été favorablement honorés. Et donc, maintenant, la réflexion, c'est, d'une part, on a démontré qu'on pouvait développer un espace éthique dédié à une maladie, mais représentatif d'enjeux qui sont la dépendance, la perte d'autonomie, la difficulté de communication, bref, qui ne touche pas qu'à l'Alzheimer. Donc une réflexion pour nous, c'est, puisqu'on a réussi sur ce point, comment éventuellement ouvrir cette réflexion à d'autres types de réalité de la maladie, d'une certaine façon. Comment s'ouvrir, c'est pour nous un enjeu tout à fait important, la réalité de la maladie chronique. Et là, pour nous, c'est au cœur de nos préoccupations. De plus en plus, des personnes vivront longtemps, dans la longue durée, une maladie pour laquelle autrefois elles seraient mortes. Comment accompagner ces personnes d'une manière non spécifiquement médicale? Comment la société peut se mobiliser, quel type de réseau, comment les associations peuvent aussi évoluer. Bref, ça, c'est des éléments, à mon avis, qui sont un enjeu important pour un espace éthique. Il faut créer de la cohérence, ce qui a été le cas avec le plan Alzheimer, avec les gestionnaires de cas, mais dans beaucoup de services, maintenant, il y a les référents et autres. Donc, il y a des articulations. Nous, notre intéressant, c'est pour nous travailler sur articulation hôpital et société, par exemple. Donc, comment on va s'ouvrir sur ces questionnements. Et puis, un des enjeux qu'on a vu apparaître dans le discours politique ces derniers mois et qui s'est renforcé aussi avec la loi de bioéthique sur le débat public, comment accompagner des évolutions. Alors là, on est en plein sur le débat sur la fin de vie. Mais il y a les neurosciences, enfin, il y a tout un ensemble de registres qui vont impacter différemment, qu'on pense, la société, le mode de pensée, l'interface pensée-machine, pour toutes les technologies de recomposition, de la biologie. Donc tout ce qui se met en place aujourd'hui, la biologie de synthèse et autres, interroge la société, demande d'anticiper, et demande qu'il y ait des lieux où la concertation entre des professionnels qui sont à la pointe du progrès, des professionnels qui appliquent ensuite un certain nombre de procédures, et puis la société dans sa diversité, puissent se rencontrer. Ensuite, c'est au Parlement de prendre des décisions. Donc on a besoin de ces espaces. Le dernier point d'ailleurs dans l'actualité de nos réflexions, c'est tout ce qui est aujourd'hui profilage des personnes d'un point de vue génétique, tout ce qui est segmentation aujourd'hui des pratiques, personnalisation de la médecine. Et la dernière évolution importante, marquante, est intervenue au dernier trimestre de l'année 2012, puisqu'on a été désigné laboratoire d'excellence sur le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc tout ce qui est maintenant diagnostic précoce de maladie va avoir un impact extrêmement fort, puisque toute personne aujourd'hui peut faire des tests sur Internet. Qu'est-ce qu'on va faire de ce savoir, qui est un savoir incertain, mais que les gens, à un moment donné, auront à vivre? Notre seule force, on est 4 personnes à l'espace éthique, notre seule force, c'est un réseau. C'est-à-dire qu'on a constitué à travers les années un réseau de gens qui sont des militants, des professionnels militants, puisqu'ils interviennent en plus de leurs activités. La même chose, les gens qui font des études chez nous sont tous des gens militants. Ils ont une charge de travail importante, une vie familiale et autres. Et donc, notre force de frappe, ce n'est pas le budget de l'espace éthique qui est ridicule. C'est le réseau qu'on a constitué, de telle sorte que quand en 2010, on a dit « Occupez-vous de la maladie d'Alzheimer », on a réussi à mobiliser au niveau national les compétences qui vont des associatifs, les neurologues, enfin, toutes les compétences, CM2, etc., parce qu'on a une certaine légitimité. Et donc, d'une certaine manière, voilà la force d'un espace éthique. En France, aujourd'hui, on le sait depuis quelques jours, on a, à travers les ARS, désigné 11 structures qui sont appelées espaces éthiques. Donc, il y a un arrêté qui définit les missions des espaces éthiques. Donc, ça se met en place. La structure de référence avec laquelle on a travaillé pour l'Alzheimer, c'est Marseille, puisque le deuxième espace éthique a été créé, et qui explique d'ailleurs que ce sont des espaces éthiques dans la loi, puisque Matéité Ministre de la Santé, c'est lui qui a souhaité nous consacrer le modèle espace éthique. Et donc, le deuxième espace éthique qui s'est créé était l'espace éthique de Marseille. Alors, depuis, il y en a d'autres à Lille. Bon, ils vont faire un peu leur preuve. On nous dit qu'au niveau maintenant européen, il y a une discussion pour voir de quelle manière le modèle à la française. Vous aviez le modèle en 83 du comité consultatif national d'éthique qui avait été créé par François Mitterrand, qui était le premier comité de cette nature, qui a été repris comme un modèle au niveau international. Donc il y a aujourd'hui une discussion, comme on n'est pas comité d'éthique et qu'on correspond à une autre dimension de ce qu'est la démocratie du débat, donc il est fortement question aujourd'hui de reprendre également dans d'autres pays européens le modèle espace éthique. Si le modèle, on arrive à dire, le mot espace éthique veut dire quelque chose, j'imagine que derrière les espaces éthiques, compte tenu des enjeux locaux, compte tenu des traditions, compte tenu des cultures, il y aura des spécificités, des singularités. Et c'est pas qu'une bonne idée d'avoir dit on fixe un projet espace éthique selon un certain nombre de lignes précises. Je pense que les espaces éthiques n'ont de pérennité possible que si c'est vraiment un lieu très modeste et ressource. C'est-à-dire qu'il ne va pas amputer les autres d'une capacité de légitimité à réfléchir. Et grand danger, ça sera l'institutionnalisation des espaces éthiques. Si demain, et c'est une tendance qu'on voit apparaître et qui nous inquiète, qu'on a bien mise en évidence dans la réunion constitutive des espaces éthiques, si demain on utilise l'espace éthique en lieu, entre guillemets, de pouvoir éthique, pouvoir arbitraire au nom d'une éthique qui n'a pas de pouvoir, si c'est celle du questionnement, on risque d'avoir des dérives très très importantes. C'est pour ça que moi personnellement, quand j'ai été amené à accompagner le développement d'espace éthique, je me suis dit, dès lors qu'il y a de l'ouverture, qu'il y a du questionnement, de la contradiction, on vit, mais il faut être extrêmement précis. Et ce qui va être important dans les mois qui viennent, parce que je développe la dynamique des espaces éthiques, c'est de définir d'une manière très très précise les contours et les compétences requises, notamment pour évaluer les espaces éthiques. Dans la création de ces espaces éthiques, maintenant d'une manière officielle, nous on s'était auto-créés. C'était la décision d'un directeur, Alain Cordy à l'époque, qui était ensuite pérennisé dans un contexte qui n'a pas toujours été favorable au sein de la PHP. Là, on est dans une conjoncture favorable, on n'a pas toujours été dans une conjoncture favorable. Donc, on a fait avec des moyens du bord et on l'a fait d'une manière très humble. Ça ne nous a pas empêché de travailler et d'universitariser notre projet. Parce qu'un point important, c'est qu'au départ, on n'était pas un espace éthique universitaire. On n'avait jamais au début l'intention de faire autre chose que du débat d'idées. C'est parce qu'il y a une demande d'universitarisation et parce qu'on est dans un CHU qu'on est universitarisé pour avoir une certaine forme de légitimité. Donc le grand danger dans les mois qui viennent, c'est d'abord des instances qui risquent d'être lourdes au niveau de la gouvernance, un conseil par exemple d'orientation qui va être extrêmement compliqué. Donc s'il y a des personnes compétentes, c'est pas nous qui allons les désigner, mais s'il y a des personnes compétentes qui partagent un certain nombre de valeurs, ça va être une chose. Mais quand on sait qu'au niveau des disciplines universitaires, les enjeux, les rivalités, les finalités ne sont pas les mêmes, ça risque de devenir très vite ingérable. J'ai dit officiellement, quand on nous a confié l'espace éthique Alzheimer, si on m'avait dit vous avez un conseil d'orientation à composer avec 30 personnes et un bureau avec 6 personnes et avec ceci, avec cela, on n'aurait jamais rien fait en 2 ans. En ce qui concerne le directeur de l'espace éthique, c'est un animateur. Moi, je ne suis pas un professionnel de santé, je suis un ancien producteur à France Culture qui est spécialisé dans les questions d'éthique médicale. Donc mon profil, il est particulier. Je suis un animateur et un animateur qui a une véritable forme d'engagement vis-à-vis des professionnels. Parce que j'ai considéré que dans mes choix personnels philosophiques, il se passait des choses essentielles dans le soin. On parle beaucoup du care. Donc mon investissement citoyen et j'allais dire intellectuel, c'était dans le champ du soin. D'autres investissent dans d'autres domaines de la pensée. Pour moi, c'était le domaine d'évidence le plus important. Donc mon parcours, c'est mon parcours. Il se termine un jour. C'est-à-dire, moi, je ne me suis pas bu dans l'éternité de l'espace éthique. Déjà, je ne savais pas si une entreprise pourrait être pérenne. Quand on voit tous les chaos qu'on a eus, les moments un peu difficiles de l'espace éthique depuis 1995, d'autres, je ne vais pas raconter des histoires secrètes de l'espace éthique, auraient renoncé beaucoup. Chaque fois qu'on hésitait à continuer avec une toute petite équipe, je me suis dit, il y a des enjeux supérieurs. Peu importe, ça, c'est les valeurs que chacun défend. Et j'en ai pas fait davantage que le soignant qui est sur le terrain, qui défend des valeurs dans un contexte restrictif, où on conteste et d'une certaine manière, on les dévalorise. Donc on a continué, mais un jour, ça sera intéressant d'avoir l'histoire de l'espace éthique, d'avoir que si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a une résolution absolue et parce qu'on a eu des alliés autour de nous qui ont dit, mais n'arrêtez pas. D'abord, peut-être que demain, le bureau de l'espace éthique régional d'Île-de-France désignera un autre directeur. Et personnellement, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cette question. J'ai le sentiment qu'il y a une mission qui est accomplie et j'ai d'autres idées sur la suite d'un parcours. Donc je ne suis pas du tout accroché à une fonction, puisque c'est une fonction qui ne m'a, honnêtement, et je dis comme ça, parce qu'on est en train de filmer, qui ne m'a rien apporté, si ce n'est à titre personnel de dire je sers un intérêt commun. J'avais beaucoup d'autres opportunités plus valorisantes que de m'occuper d'un espace éthique. Parce que s'occuper d'un espace éthique, quand on a des prétentions intellectuelles, c'est extrêmement, difficile. Parce que moi, je fais des ouvrages, c'est des ouvrages, j'allais dire, succincts, enfin, je veux dire, quelle que soit la pertinence qu'ils peuvent avoir. Mais j'aurais pu vraiment aller beaucoup plus loin dans quelque chose d'extraordinaire qu'est l'émergence de l'éthique du care. Et moi, quand j'ai découvert l'espace éthique, qu'est-ce qu'on a rencontré au départ? C'est des soignants, j'allais dire, qui sont sur le terrain. C'est des gens qui ont des valeurs extrêmement fortes. Bon. Résultat de l'opération, moi j'ai fait un travail d'animation. Il faut organiser un travail de lutte pour pérenniser une structure dans un contexte qui n'était pas, pas toujours compliqué en termes. Donc, pour l'avenir, en quelque sorte, je pense que la fonction du directeur, on ne me demandera pas de dire d'une manière claire qu'est-ce que c'est un directeur, c'est d'abord un animateur, très modeste, et quelqu'un qui soit capable d'animer un réseau. Et quand on m'a confié l'espace Alzheimer, qui était la validation du modèle espace éthique, c'est exactement ce qu'on a fait. On a créé un réseau. On sert un réseau, on milite pour le réseau, on le défend aux instances, avec les différentes instances. Donc je pense que si on met par exemple un intellectuel, je prends un exemple extrêmement sophistiqué, parce qu'il a une compétence en éthique, encore une fois, on pourrait avoir quel type de compétence, est-ce que c'est philosophique, est-ce que c'est juridique, est-ce que entre l'éthique, en plus, n'est pas une discipline universitaire, il faut prendre ces éléments. Par nature, l'éthique, Amezen dit, Jean-Claude Amezen, le président du comité d'éthique, dit elle est indisciplinaire d'une certaine manière. Elle est à la fois transdisciplinaire et au-delà des disciplines. Donc elle n'existe pas en tant que telle. Donc déjà, pour trouver le profil, il faut que ce soit un animateur, un catalyseur, et qui accepte, quelles que soient ses prétentions, de se mettre au service de quelque chose. Voilà. Donc, tout ça pour dire très très concrètement, mission accomplie pour moi. S'il y a un avenir à l'espace éthique, avec plaisir, il n'y a pas d'avenir, il y aura vraiment d'autres opportunités. Une des originalités de la démarche de l'espace éthique, on intervient donc en 1995. On a un comité consultatif national d'éthique qui fait un travail de qualité. Donc on peut très bien dire, on va se lancer aussi à faire des avis, à réfléchir. On a à la PHP quand même l'excellence aussi au niveau de la recherche biomédicale. Nous, on a pris une option immédiate, c'était l'éthique hospitalière et du soin. On est dans le prolongement des années SIDA, c'est-à-dire une révolution culturelle importante avec la démocratie sanitaire, l'autonomie de la personne malade, avec des partenariats qui sont développés entre des associatifs, des malades et des professionnels, des chercheurs, c'est-à-dire on a des entités nouvelles. On a dans les années 80 également l'émergence des soins palliatifs en France. Donc on est dans un champ culturel qui évolue et qui se politise d'une certaine manière. Donc l'éthique devient une éthique politique pour nous. Et puis on crée un espace éthique à la PHP qui est un lieu extrêmement compliqué, multiple, où à la fois on est à la pointe au niveau de la recherche biomédicale et on avait des enjeux également d'accueil des personnes en situation de vulnérabilité sociale qui ne trouvent de lieu d'accueil que l'hôpital. Donc il y a cette tension extrêmement forte entre des missions, j'allais dire, sanitaires de haut niveau, voire de recherche, et des missions sociales. Et nous, on se retrouve là-dessus. Et le choix qui a été fait, donc on avait composé avec Didier Sicard, qui était le conseiller médical de la PHP à l'époque, le directeur général et Alain Cordier, on a composé un petit bureau, si on veut, qu'on appelait la cellule de réflexion d'espace éthique. C'est la première instance qui se réunissait tous les mois autour d'une thématique. Et le premier thème qu'on a abordé, c'était un peu notre instance de gouvernance, si on veut, le premier thème qu'on a abordé, c'est on a fait venir Jacques Lebas, qui avait créé la consultation précarité à Saint-Antoine. Donc il est humanitaire, pour nous dire qu'est-ce que c'est la question de la précarité, c'est-à-dire on est parti dans les questions un peu limites du soin. Ensuite, il y avait la question, pour un exemple, on a abordé la question du transsexualisme. On a essayé de voir des questions qui étaient les chambres mortuaires, c'est-à-dire des espaces de réflexion pour nous à fort enjeu, mais qui n'étaient pas considérés comme des questions supérieures de la bioéthique. Ce n'était pas l'assistance médicale à la procréation. Par la suite, essayer des souches embryonnaires. Ce qui nous a pas empêché d'accompagner la réflexion à notre manière, et toujours en ramenant aux réalités du soin. Et pour nous, à mon avis, dans le côté, on nous dit toujours maintenant, la dimension, j'allais dire, identitaire d'une instance, notre dimension identitaire, elle se ramène à la marginalité du soin. On est parti d'une hypothèse, c'était que les choses importantes dans la société, et pas uniquement dans le soin, se situent aujourd'hui, s'inventent aux marges. Et les marginaux dans une institution, même s'ils ont une valeur scientifique qui est reconnue, mais les marginaux, les gens qui dérangent un peu, même si c'est difficile, sont les gens qui sont les plus productifs déjà du questionnement et qui sont quelquefois les plus inventifs. Et donc, on a essayé d'aller vers ces marges, mais les marges, j'allais dire, du social à l'hôpital. Et le groupe, par exemple, pérenne, pour nous, le plus intéressant, c'est le groupe Chambre Mortuaire. Parce que, donc, on a composé avec un ancien d'équerre, c'est Jean-Yves Noël, et on a dit on va mettre en place un groupe sur les chambres mortuaires. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les années 95-98, on nous parle des soins palliatifs. On se dit mais c'est bien les soins palliatifs. Il y a une société savante qui va commencer à développer une vraie culture, une réflexion. On voit que sur le terrain, ce sont souvent les unités mobiles qui sont consultées, quelques décisions difficiles à prendre. On se dit mais il y a la mort. Et qu'est-ce qui se passe après ? Donc on voit comme ça apparaître à travers ce modèle des chambres mortuaires 1000 petites questions tout à fait saisissantes. Le service hospitalier qui envoie un an après le décès d'une personne, le service d'oncologie, un petit message pour dire on a une pensée, le service a une pensée pour vous, on se rappelle de votre mari qu'on a accompagné. Le service qui fait la chimiothérapie, qui téléphone à la dame le soir parce qu'elle rentre chez elle. Ils savent qu'elle n'a pas de famille qui va vraiment la soutenir pour savoir si elle est bien rentrée, si elle va revenir. Et donc on voit toutes ces dimensions non visibles qui sont l'intimité du soin, qui renvoient à des valeurs d'humanité extrêmement profondes et qui définissent une vocation professionnelle dont les rumeurs et les interprétations souvent critiques des politiques à l'égard de l'hôpital qui ne parlent plus de coup passent de plus en plus contestées dans la visibilité qu'on leur donne. De telle sorte que quand les gens arrivent à l'hôpital, ils ont l'impression qu'ils vont aller vers des gens indifférents, des gens insensibles, des gens qui ont d'autres préoccupations que de soigner. Bon. Et puis nous, on est témoins de tout ça. Donc on se dit, on va essayer de porter ce message, que c'est bien d'être dans un centre hospitalier universitaire, mais il y a aussi, si ce centre a une légitimité, c'est parce que derrière, il y a tous les anonymes qui, à 3h du matin, vont amener une tisane à une personne, ça ne sera pas valorisé, ça ne sera pas un acte GLT2A, et pourtant, c'est ce qui va être encore le liant dans cette affaire. C'est pour ça que, si j'avais par exemple une critique à faire à l'espace éthique, et je me la suis faite il y a quelques jours, pour dire les choses, il y a eu toute la campagne sur les tenues, souvent extrêmement scandaleuse qu'on met aux malades, tu sais, avec des petites tenues en entissé, fesses en l'air, etc. Et donc il y a eu la campagne ces derniers mois qui a abouti aujourd'hui à ce qu'il y a un groupe de travail et la PHP qui est en train d'avancer sur ce sujet. Nous, ça fait des années qu'on est témoins par des professionnels, serait-ce qu'on a une mémoire historique extraordinaire, c'est des mémoires des gens qui font des DU chez nous, ou des masters. Demain, on pourra lire l'histoire de l'éthique. On ne la lira pas chez Kant, enfin je veux dire, politique hospitalière du soin, on la lira sur des mémoires qui ont été faites par des professionnels, tout aujourd'hui est en cours d'indexation. Donc si on a plus de 400 mémoires de M2 et 400 mémoires de M1 et 280 mémoires de M2 depuis 2006, et la même chose en DU, et maintenant on a tous les doctorats qui produisent aussi la recherche en éthique, c'est un matériau extrêmement intéressant. Donc on a un indicateur sur la sensibilité, les réponses. Et on avait ces questions d'intimité, de pudeur, etc. Et ben, je me reproche de ne pas avoir été assez volontariste pour dire cette cause-là, nous devons la défendre, comme nous défendons la cause des aides-soignants aujourd'hui dans les EHPAD, qui sont une personne pour 80 personnes la nuit. Voilà. Voilà. Et donc on n'a pas été assez agitateur, finalement, d'un point de vue, entre guillemets, politique. Et ça, je me reproche un peu. Alors, rétrospectivement, je me dis... Quand on est intervenu sur des affaires qui ont défrayé la chronique, comme les cœurs arrêtés, des choses comme ça, prélèvement à cœur arrêté, ça a déclenché tellement de polémiques que peut-être que ça ne nous aurait pas permis de vivre très longtemps si on s'était mis sur ces fronts. Mais, donc la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est aussi, est-ce qu'on a une capacité dans certains domaines, et ça va être un défi pour les années qui viennent, à préserver une crédibilité, voire une légitimité, si on est très en dehors des vraies problématiques des professionnels d'un point de vue choix politique. Voilà, c'est une question qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est notre rôle propre? Juste une anecdote. Il y a eu quelques années une manifestation de soignants nationales et à l'entrée de Saint-Louis, depuis à Saint-Louis, il y avait marqué « grève éthique ». Il y avait marqué « grève éthique » parce qu'il y avait mis ce slogan. Je suis allé voir le syndicaliste qui avait mis ça. Il dit « oui, parce que c'est les comités d'accueil, tout ce qui me décline ». Sur les motivations profondes de la grève renvoyées à des valeurs éthiques. Il y a eu une manif, et je vous garantis, il y a une neuro. Une personne qui fait de la neuropathologie dans un hôpital parisien, qui me téléphone en direct de la manif avec son mobile, et me dit c'est un scandale que l'espace éthique ne soit pas représenté. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit est-ce que c'est mon rôle ça? Donc chaque fois, on a à être légitime par rapport à l'institution. On est là où on est dehors, si on veut la critiquer, alors là, l'espace éthique n'est pas un instrument pour critiquer, mais comment faire avancer un certain nombre de questions et comment ne pas être délégitimé vis-à-vis de professionnels qui disent, je prends un exemple, la T2A avec son impact sur ceci et cela, mais qu'est-ce que dit l'espace éthique? Et vous voyez la difficulté, c'est-à-dire que plus ces choses vont aller maintenant qu'il y a une espèce de consacration un peu différente de l'espace éthique, est-ce qu'on sera en capacité de trouver le juste équilibre, à la fois dans nos responsabilité vis-à-vis d'une institution, une certaine forme d'intégrité, et dans la nécessité d'être engagé. L'éthique, par nature, est un art du questionnement, et quelquefois, notre questionnement transgressif, c'est pour ça que l'intervention de Jean-Claude Amezen m'a paru très intéressante ces derniers jours, quand il disait aussi, dans une réunion d'éthique, on n'est pas capable de poser les vraies questions, pas la peine de dire qu'on fait une réunion d'éthique. Mais il faut que les gens soient ensuite réceptifs, pour autant que l'éthique n'aboutisse pas à la décision, mais éclaire le décideur. Un des thèmes centrales, à mon avis, qui est pérenne et qui est transversal à toutes les questions d'éthique aujourd'hui, c'est la question de la vulnérabilité, la question de nos responsabilités vis-à-vis des personnes vulnérables. Et il est vrai que quand on s'occupe d'une personne dépendante, vulnérable dans le grand âge, dans les maladies qui affectent sa capacité de penser, de décider, ou sa capacité de discerner, par analogie, on montre très bien que la cause est commune à d'autres réalités de la maladie ou à d'autres réalités des temps de la vie. Et effectivement, quand on voit tous les débats sur la vulnérabilité de l'enfant, la protection de l'enfant, le souci propre qu'on doit avoir avec l'enfant, alors quelquefois avec des choix difficiles par rapport à la fratrie, par rapport aux parents, on arrive à comprendre les choses. Nous réfléchissons depuis quelques mois à l'émergence d'un questionnement en Belgique et aux Pays-Bas sur l'ouverture de la loi qui dépénalise l'euthanasie, hein, donc c'est une loi de 2002 dans ces pays, puisqu'il y a trois pays Benelux. Et aujourd'hui, une des grandes discussions, c'est est-ce qu'on doit ouvrir ce droit aux adolescents. Ça nous a beaucoup frappé. Et en disant, il y a la Convention de New York pour les enfants, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont évolué. Il y a même des comités de protection des personnes qui font des documents de consentement écrits pour l'enfant, même si juridiquement il n'a pas consenti, mais pour le prendre en compte et pour que le professeur comprenne quels étaient les enjeux spécifiques à l'enfant, qui sont des enjeux à prendre véritablement à traduire dans les faits. Donc la vraie question qu'on s'est posée, c'est est-ce que par exemple un adolescent doit être reconnu compétent pour décider d'une demande d'euthanasie. La question, la vraie question, c'est au nom de quoi on pourrait le refuser. Alors on est rentré un petit peu aussi en rencontrant les professionnels dans l'intimité de ce jeu-là. C'est vrai que ça, c'est une question que vous connaissez, que moi j'ai uniquement appris comme ça en discutant. Mais, la maturation d'un jeune qui est confronté à la maladie grave et à la mort, on fait, j'allais dire, un adulte, enfin je veux dire, quelquefois plus qu'un adulte, dans sa capacité d'assumer une responsabilité, avec toutes les ambitions d'avance, quelquefois, de protéger ses proches de douleurs, de souffrances. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement sensible, et je ne suis pas convaincu que la loi soit là pour apporter des réponses à des singularités. Et il y a énormément d'enjeux, et on voit dans les décisions médicales, la décision n'est pas simple, elle est par nature complexe. C'est-à-dire, il y a des parents, et les parents même au sein d'un couple, il peut y avoir des positions très divergentes, en plus très évolutives, enfin je veux dire. Quand on discute avec des gens de trousseau sur la greffe de moelle et les conséquences pour certains enfants qui vont vivre un calvaire jusqu'à la mort, etc., on a été trop près, intellectuellement, je parle de ces questions, pour se dire que nous, d'un point de vue, j'allais dire, d'un positionnement éthique, on dit qu'il faut être extrêmement mesuré dans des paroles qui pourraient être trop entières d'un côté ou de l'autre. Donc, notre position, ça vous paraîtra comme ça un petit peu approximatif, c'est de dire que les situations sont tellement singulières que c'est certainement pas à l'éthique ou à la loi d'apporter des réponses. Qu'on participe au débat en éclairant, en disant il y a tel type de repérage, quand vous parlez du respect d'un enfant par rapport à sa demande, qu'est-ce que vous respectez, jusqu'où vous devez le solliciter, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de l'intrusif que de l'inciter à devoir se poser la question d'une demande ou pas d'euthanasie, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est la même chose dans les directives anticipées. Est-ce qu'on n'est pas intrusif de dire vous devez absolument, quand vous rentrez dans un EHPAD, écrire vos directives anticipées, quelquefois, elles sont préétablies d'avance. Donc nous, on réfléchit plutôt à ces mentalités que ça génère, c'est-à-dire cette espèce de notarisation. C'est même pas notarisation, c'est l'histoire des notaires. Quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de judiciariser quelque chose qui est de l'ordre d'une relation à l'autre. Notre réflexion, c'est plutôt la réflexion qu'on essaie de développer, c'est comment aujourd'hui réhabiliter une relation de soins dans un contexte qui a été tellement miné, alors je le dis d'une manière claire, par une certaine idéologisation de la loi du 4 mars 2002. Et voilà un élément, par exemple, qu'on trouve très discutable, c'est aujourd'hui la sacralisation de la notion d'autonomie. Parce que chaque fois qu'on est confronté à ces questions, on nous parle de l'autonomie de la personne. D'un point de vue idéal, je ne vois pas qui peut contester l'idéal d'autonomie. Mais est-ce que la personne malade est une personne autonome, même quand on n'est pas malade? Quelle est cette mystification d'autonomie? Et est-ce qu'on a bien fait de revenir totalement sur le concept de paternalisme médical? Ça paraîtra très iconoclaste. Alors j'ai eu le malheur de dire dans une réunion de l'Ordre des médecins que j'étais pour le retour à un paternalisme éclairé. Alors, de suite, évidemment, c'est scandaleux, c'est réacte, etc.
Mais dans une relation de soins, moi je ne suis pas professionnel de santé. Alors je m'interroge d'une manière un peu cartésienne, si demain je suis confronté à une maladie, qu'est-ce que j'attends du médecin? Et Armelle Debré, qui est historienne de la médecine, m'a évoqué un texte d'Hippocrate qui parle du médecin ami. C'est-à-dire comment doit se développer une relation, j'ai dit, de confiance et d'amitié. Moi j'attends une fraternité, c'est-à-dire, c'est pour ça que la notion de compassion, je l'interroge aussi, c'est-à-dire une compétence que je n'ai pas, qui serve mon intérêt propre dans le cadre d'une relation où on comprend ce que je suis et ce que je veux. Et donc, il y a tous ces éléments singuliers et complexes qui aujourd'hui sont anéantis par des espèces de formules à l'emporte-pièce qui desservent les plus vulnérables. Et j'observe, par exemple, qu'effectivement, si on a un environnement assez favorable intellectuellement, les réseaux, etc., on sera plus autonome que si on est dans la précarité. Je pense que tout ce qui est de l'ordre des grandes généralités me semble de l'ordre de l'imposture. La relation de soins, c'est une relation spécifique et en plus très évolutive. Et j'arrive à comprendre, mais sans faire d'effort, et je pourrais le justifier d'un point de vue alors argumentaire, que dans certains cas, on considère qu'une chimiothérapie compassionnelle est justifiée, et dans d'autres cas, elle n'a pas de sens. J'arrive à comprendre que dans une équipe de réanimation, on dit, là, on est vraiment dans une stratégie qui est allée trop loin, limitation à traitement dans le cas du... Et puis que là, on considère, y compris si l'équipe n'est pas prête encore à ce qu'on arrête. Parce qu'il y a des équilibres profonds. Une fois qu'on dit ça, les gens disent, mais c'est arbitraire, c'est... Je pense qu'il y a une intelligence de l'humain, enfin je veux dire, qui existe et qu'on fait tout aujourd'hui pour démobiliser cette dimension qui est pour moi le critère le plus essentiel pour la relation de confiance entre une société et ses médecins. Pour l'histoire de l'euthanasie, puisqu'on nous parle aujourd'hui d'assistance médicale au suicide, du suicide médicalement assisté, donc à l'euthanasie, la vraie question c'est... Est-ce qu'on ne va pas rentrer, comme dans certains établissements dans les pays où ils ont dépénalisé, sur un soupçon encore plus important à l'égard des équipes, dans les décisions qui vont être prises, notamment sur des critères d'ordre économique, il y a ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, ou des critères, j'allais dire, de notoriété, donc il y a tous ces éléments. Les crises également qui vont être vécues dans des services où il y aura des opinions divergentes par rapport à l'euthanasie, quelles que soient les libertés de conscience reconnues aux uns aux autres. Est-ce que c'était vraiment l'urgence aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Puis un autre point qui me paraît important, et c'est là où on revient aux formations d'espace éthique, et on est content qu'on ait de plus en plus de professionnels qui suivent des formations, c'est qu'il y a une dimension quand même à la fois anthropologique, historique, en sciences humaines, à ne pas négliger quand on pratique la médecine aujourd'hui. Beaucoup des questions de la fin de vie sont liées à la réanimation des années 70. C'est-à-dire, l'émergence de ce débat-là, en ces termes-là, s'est posée quand le médecin avait la possibilité de créer des situations qui étaient des situations inédites. Donc on va créer de plus en plus de situations inédites, et pas uniquement en termes de fin de vie. Augmenter le vivant avec les neurosciences aujourd'hui, l'utilisation des cellules souches, avec toutes les potentialités qu'elles représentent dans la reconstitution, la transformation, c'est aussi des enjeux extrêmement forts. Et je dirais que le grand danger aujourd'hui, c'est de focaliser les questions sur les questions limites. Alors qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est comment on prend une décision à un moment donné qui, faute d'avoir été étayée ou reprise ou revue, aboutit à des situations d'impasse qui font des affaires qui défraient la chronique. Aujourd'hui, ma référence importante, c'est un philosophe d'Harvard qui s'appelle Michael Sandel, et vous pouvez d'ailleurs suivre ses cours sur le site d'Harvard sur l'idée de justice. Pour moi, la question importante d'un point de vue éthique, c'est la question de la justice. Et il y a toutes ces notions aujourd'hui qui sont développées sur la capacité, enfin, les capacités des personnes. L'expérience qu'on a avec l'espace éthique Alzheimer, c'est qu'on a compris dans nos contacts, dans nos réflexions, que même des gens qui sont niés dans des capacités qui objectivement ne s'expriment plus, existent autrement autre part et ont leur place parmi nous. Et une place qui, faute d'être reconnue, nous ampute de ce qu'est la diversité de ce que nous sommes. Et nous ampute d'un questionnement qui nous enrichit. Donc, cette espèce d'ostracisme qui pourrait mener quelquefois avec certaines logiques à une euthanasie de ces questions, déjà mentalement, de ne pas les reconnaître dans leur identité, leur spécificité. On l'avait vu émerger aussi d'une manière moins grave dans la revendication des personnes malentendantes, par exemple, qui disaient, mais on doit être reconnu dans notre identité, et tout le débat sur l'implantation, par exemple,
des implantations cochléaires. Identité, modification, transformation, en quoi ça remet en cause ce que nous sommes, hein, ou même quand on commence à dire est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants qui auraient la même chose pour les personnes babyloniennes. Donc le débat est un débat tout à fait fondamental. Et à mon avis, c'est une richesse que de dire qu'il faut qu'on se donne les moyens d'affronter ces questions d'une manière non normative. Parce que aujourd'hui, la normativisation, la médicalisation de questions qui échappent au médical, le grand danger, c'est ça. Je disais, il faut démédicaliser aujourd'hui l'approche, par exemple, de la maladie chronique, dès lors qu'il y a une intervention médicale qui permet à des gens de vivre plus longtemps. La responsabilité de la société n'est pas médicale, c'est comment on intègre ces personnes, comment on les reconnaît dans des droits et des besoins spécifiques. Donc ce que vous dites sur la partie autisme, vous m'avez frappé quand j'étais président de ProAid Autisme, et ensuite Delta 7 Autisme, quand on a créé les premières structures avec le modèle TEACH, qu'on a fait venir les équipes Théo Peters, Schoeppler, qu'on a monté la première structure au Dakintini, et qu'on a découvert qu'il y avait l'autisme, il y avait aussi des jeunes, je ne parle pas de la réalité des parents, qui étaient en capacité d'une éducation. Alors ensuite, on pouvait discuter de modèles comportementalistes ou pas. Mais c'était reconnaître la personne comme personne, c'est-à-dire avec une réalité singulière et, j'allais dire, qui n'était pas soumise à un préjugé a prioriste qui la niait dans toute capacité d'exister. Une expression un jour de Cabrol sur les gens qui ne donnaient pas les organes, ils sont responsables d'une état sociale. Notre société doit être éveillée. Alors, s'il y a une conscience agitée, c'est pas dire rappeler les valeurs de la démocratie ou du vivre ensemble. C'est à travers les questions d'éthique du soin de dire où se situe le soin par rapport à la médecine. Et la notion de care n'est pas qu'une dimension médicale, c'est une notion politique en termes de citoyenneté. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un vrai enjeu, d'abord pour les personnes elles-mêmes, aussi pour l'environnement, qui est souvent aussi ségrégué. C'est-à-dire, on voit, et puis ensuite, un autre cercle, c'est que certains professionnels s'occupant de certains types de réalités de maladies sont également au sein de la communauté professionnelle ségrégée, parce que c'est des thématiques qui sont moins intéressantes, moins valorisantes. Et c'est là où il y a une vraie réflexion à mener sur, quand on a un plan Alzheimer, jusqu'à quel point, parce que c'est le débat du jour, on l'ouvre à d'autres maladies neurologiques. Question. Est-ce que c'est d'autres maladies neurologiques ou est-ce que c'est d'autres maladies de la démence? Donc la sémantique est importante. Je suis au conseil d'administration d'ATD Carmonde. Et ATD Carmonde réfléchit actuellement sur la notion de placement des enfants en situation de difficulté. Et le mot qu'ils employaient dans le débat, c'était la notion de maltraitance. Et je leur ai dit que, aussi à la PHP, dans le milieu du soin, vous avez parlé depuis des années de maltraitance. Alors que l'objet important, c'est la bien-traitance, c'est pas la maltraitance. Si on commence à aborder cette question uniquement sur le champ de la maltraitance, et à désigner ce qui ne va pas, on voit pas aussi comment on peut construire quelque chose, on va être très très péjoratif. Donc je pense qu'en matière d'éthique, réhabiliter certains mots, c'est pour ça que quand on dit, on a interdit le mot autonomie. On n'a rien, encore une fois, contre l'autonomie, et les fondements de la métaphysique des mœurs, c'est un très beau texte, de cette manière. Mais avoir l'honnêteté de se dire qu'une personne malade n'est pas constamment autonome, elle peut être autonome à certains moments, et il faut créer des conditions pour qu'elle soit autonome, par exemple dans la prise de décision, c'est toutes les évolutions qui ont eu lieu avec le cancer, enfin je veux dire comment on s'approprie l'information. Mais au lieu d'être dans le slogan, se dire comment rendre la personne autonome. Quand on nous dit aujourd'hui les technologies d'information et la communication vont permettre de rendre les gens autonomes, pas parce que vous êtes devant votre écran, que vous avez de l'information, que vous êtes plus autonome. Comment vous appropriez un savoir et comment vous le partagez avec d'autres. Donc il y a des vraies questions qui se posent aussi pour l'éthique du soin, c'est toutes les médiations, les coordinations, etc. Donc je vais tout à fait dans votre sens. Et l'enjeu fondamental, et là je trouve que je vais mener sur ce point, nous on est une petite structure, bon, agitateur, c'est l'histoire qui dira si on a vraiment accompli notre mission. Mais là où il y a un enjeu, à mon avis, pour les mois qui viennent, on va célébrer le 30e anniversaire du comité consultatif national d'éthique. On a vu à travers 30 ans ce qu'il a pu faire, aussi ce qu'il n'a pas pu faire. On a vu que beaucoup de domaines qui touchaient à des questions d'éthique et de société n'avaient pas vraiment d'instance interlocuteur, de cette façon. Donc par exemple, pour moi, je serais très attentif à voir l'évolution du champ de compétences et éventuellement du comité d'éthique par rapport à ces questions. J'observe par exemple que c'était la volonté de peu de personnes au sein du CCNE d'aborder la question de l'autisme. Par exemple, le même cas. Il y a eu des gens, j'ai des militants qui avaient conscience de cette dimension de la cause pour l'intégrer alors que ce n'était pas la question centrale, la question des prisons, des questions de cette nature. Donc moi je trouve que c'est des questions qu'il ne faut surtout pas renoncer à poser comme centrale. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a un discours sur la bioéthique qui risque de contester la pertinence de questions qui sont beaucoup plus fondamentales. des gens peuvent oser dire des choses qu'ils n'osent plus dire dans la communauté professionnelle. Aujourd'hui, quand vous êtes PH, vous êtes praticien hospitalier, vous n'existez malgré tout, en général, que parce que vous êtes aussi compétent et que vous avez une capacité de valider d'un point de vue scientifique. Et les modes de validation aujourd'hui sont évidemment discutables. Je ne conteste pas qu'on valide. Il faut savoir selon quels critères. Si vous êtes un bon soignant, vous n'avez pas la même validation que si vous êtes un bon chercheur. Et il y a des questions qui n'ont plus d'espace où se poser. Alors, quand vous allez, et même d'un point de vue organisationnel, il y avait par exemple, dans les moments de transmission qui sont de plus en plus rares, les gens se posaient des questions, revenaient sur la réalité, j'allais dire, plus subtile de la relation de soins. Il y a de moins en moins ces espaces. De moins en moins, d'ailleurs, de professionnels qui peuvent se former parce qu'il y a de moins en moins de temps consacré à la formation. Alors, un espace éthique, c'est un lieu, à mon avis, très intéressant de ce point de vue-là. On identifie des questions, on leur donne déjà une certaine forme de visibilité à travers des thématiques, ne serait-ce que dans les formations. Disons, voilà des questions qui se posent. Mais également dans les manifestations qu'on organise. Mais surtout, les gens entendent que d'autres aussi se posent ces questions. Et ils sont confirmés dans le fait qu'ils n'ont pas tort de se poser ces questions. Donc, s'ils sont résistants, ils ne sont pas seuls. Et donc, c'est là où on est un catalyseur très intéressant, même si on n'apporte rien de spécifique. Parce que déjà, on se retrouve en disant, effectivement, nous, on se pose cette question sur l'ordinaire du soin. Une précédente directrice du groupe Necker, directrice d'hôpital, avait lancé toute la réflexion au niveau de Necker sur le soin ordinaire, enfin, je veux dire, sur la quotidienneté du soin. Enfin, c'est des questions qui étaient très négligées, alors qu'elles sont fondamentales pour tous. Quand vous arrivez à l'hôpital, la manière dont vous êtes accueilli, la manière dont on est sensible à des questions quelquefois de détail. Par exemple, le fait que la PHP dise aujourd'hui on va profiter des sites internet, des téléphones, tout ça, pour que les gens prennent des rendez-vous de manière plus simple et des jours en intérêt. Enfin, tous ces éléments, bout à bout, révèlent aussi l'attention d'une institution à sa dimension care et pas uniquement à cette dimension organisationnelle, je veux dire anonyme. Et c'est des signaux extrêmement forts. Donc, je n'ai jamais pour dire que moi, je pense que les éléments de la réflexion de fond sont intéressants. C'est pour ça que un des objectifs, alors pour moi c'est pas pour la PHP, c'est pas pour l'espace éthique en particulier, je trouve qu'aujourd'hui une institution comme la PHP devrait avoir un think tank, c'est-à-dire poser la question d'une responsabilité d'une institution, donc j'ai posé comme enjeu pour moi supérieur, c'est-à-dire si on veut donner de la visibilité, redonner aussi aux professionnels une image plus valorisante de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, il faut redonner une dimension politique à une institution comme la PHP qui est vraiment au sein de la cité, c'est-à-dire les réponses qu'elle apporte sont d'autant plus soutenables qu'il y a des gens qui dépensent et qui inventent des pratiques, des nouvelles pratiques, la relation à l'autre, enfin il y a mille questions de cette nature. Et je terminerai pour dire que pourquoi j'ai choisi et que je ne regrette pas d'avoir investi ma vie professionnelle après France Culture à la PHP. Et ça c'est pas un regret, l'espace éthique, peu importe, mais pourquoi? Parce que j'ai une démonstration in vivo que mon intuition était juste. Le lieu du soin est vraiment le lieu de la démocratie. Et les gens qu'on rencontre, que ce soit les professionnels, les membres d'associations, et même les décideurs dans les hôpitaux, c'est les gens qui ont les responsabilités administratives de gouvernance, quelles que soient les contraintes qui quelquefois les incitent à avoir des décisions qui sont contradictoires par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient. Mais je trouve que c'est un lieu d'exception. Et mes derniers mois, je ne sais pas si ce sera dernier mois, dernières années ou derniers jours, mais en tout cas, dans mon parcours personnel, c'est l'objet par exemple de mon prochain livre qui va sortir, qui s'appelle La maladie entre vie et survie. Je voulais démontrer en quoi on est dans un lieu d'exception, c'est-à-dire indispensable pour la société, et qui doit être reconnu aujourd'hui comme majeur, et qui n'est pas uniquement l'objet d'un coût, mais qui est un objet de valeur sociale. Et ce qu'on dit, nous, quand on rencontre quelquefois des responsables, des décideurs, on dit, est-ce que vous vous rendez compte de la valeur de ce qui se passe à l'hôpital? Et très souvent, ces décideurs, quand ils sont confrontés à titre personnel, pour eux ou pour un proche, à la réalité de l'hôpital, et qu'ils voient la réponse qui leur est apportée, ils sont sidérés par une réalité qu'ils ne connaissent pas et qu'ils mésestiment. Donc nous, on a à faire aussi ce travail de propagande.